comme je disais récemment, j'ai un angle un petit peu décentré pour parler du punk, l'angle décentré de l'image. Et bien souvent, l'image est problématique quand on parle du punk. Alors, pour aborder un petit peu ce problème qui peut se soulever, j'ai pensé à trois événements qui avaient eu lieu en 2012-2013 qui marquaient cette patrimonialisation du punk par l'image. Alors, ces trois événements, ils reviennent souvent. C'est d'abord cette exposition qui avait lieu à Paris à la Cité de la Musique organisée par Éric de Chassé, puis Punk, Chaos to Couture au Metropolitan Museum à New York, donc qui avait eu lieu la même année ou l'année d'avant, en 2012, et Postmodernism, mais qui avait un aspect qui embrassait des questions plutôt anglo-saxonnes, mais dans ces trois cas, se posait la question de la patrimonialisation du punk par l'image, par ce qui est visuel. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de deux artistes, deux personnalités féminines liées au punk, Olivia Clavel et Nina Childress. À partir d'une... Comment Childress ? Oui, mais elle est passée à Dena, donc bon, Childress, oui. Oui, bon, d'accord, donc Childress. La première chose que je voudrais faire dans cette introduction, c'est d'abord souligner que les parcours de ces deux personnalités sont importants pour le rôle qu'ils jouent dans la construction du punk historique à Paris. La première, donc Nina Childress, est liée à Lucrette Milk, la seconde est liée à Bazooka. Ce dont j'aimerais vous faire part dans ces quelques pistes de réflexion, c'est réfléchir à qu'est-ce qui se passe quand une femme punk s'engage dans un art d'homme, entre guillemets, qui est la peinture. Ça, c'est la première chose. Et on voit bien comment la question du genre, donc des genres esthétiques, peinture, musique, etc., rencontre la question du genre polarisation. Donc il y a ce double sens du genre dont parlait Derrida qui me semble assez important à interroger. Et la deuxième question, c'est, d'une façon plus générale, que se passe-t-il quand le phénomène musical se déplace vers l'espace imagé de la peinture ? Donc voilà un petit peu les deux cadres généraux. Pour aller très vite, donc, si je présente le plan de cette communication, la première chose donc, que j'aimerais faire, la première piste de réflexion qu'il faudrait prendre en compte, c'est une présentation insistant peut-être sur les similitudes que l'on trouve quand on parle de ces deux personnes. Donc la première chose, c'est l'appartenance d'une femme punk à un groupe à dominante masculine. Donc Bazooka et Lucrette Milk sont des groupes masculins dans lesquels se trouve respectivement une femme. La deuxième chose, je l'ai évoqué, c'est le rôle donc, de ces femmes dans la construction de la scène punk historique à Paris. La troisième chose, et là ça touche plus peut-être mes recherches, c'est la question de l'importance du dessin, l'importance de l'école et en particulier la stratégie de désapprentissage dans le punk, et j'expliquerai cette notion-là, désapprentissage par l'image, et évidemment cette question du désapprentissage est aussi au cœur des questions musicales. Le deuxième moment de cette présentation, donc de ces pistes de recherche, touchera la question d'une esthétique punk. Et évidemment, c'est un vaste chantier qu'il faudra mener durant les prochaines années. Je compte sur les recherches, par exemple, de Caroline sur la bande dessinée. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à sous, évidemment, aussi. Alors, cette question de l'esthétique, elle est intéressante. Et je traiterai de deux points, et en particulier, ces deux points s'orientent autour de la question de la traduction de l'expérience punk en peinture. Et précisément, cette question de la traduction de l'expérience punk en peinture, dont je parlerai à propos de l'œuvre de Robert Malaval dans le colloque le mois prochain, ne semble pas inclure des réponses différenciées quand il s'agit de femmes peintres ou d'artistes peintres. Hommes, il y a une sorte... Je vais soulever quelques points, mais selon moi, ce n'est pas à ce niveau-là que s'exprime la question d'une différenciation. Et le troisième point donc, de cette présentation, c'est la question plus directe de la négociation du genre dans la stratégie artistique par la peinture. Si on repart du début, donc du début, le début étant la question des points communs, donc je rappelle très vite pour ceux qui ne connaîtraient pas que Olivia Clavel donc, fait partie de Bazooka. Bazooka, un groupe d'artistes parisiens, de dessinateurs, qui a pour organe un regard moderne. Et j'avais parlé il y a quelque temps, notamment des projets réalisés par Bazooka autour d'une anarchie graphique ou d'une dictature graphique, c'était le terme qu'employait Éric de Chassé, dans la réalisation des pochettes de disques, notamment pour le label Skydog, donc quelques pochettes de disques. Et en même temps, donc on a cette recherche d'une anarchie graphique que l'on trouve chez Bazooka et aussi chez Lucrete Milk, dont fait partie, enfin qu'a formé donc ce groupe punk formé notamment par Nina Childress, donc de Lucrete Milk. Et dans les deux cas, ce qui est assez intéressant, c'est que on assiste à des artistes qui se sont formés aux Beaux-Arts. Olivia Clavel est passée par les arts décoratifs au milieu des années 70. C'est précisément aux arts décoratifs que Lucrete Milk se forme. Et de la même manière, le groupe Bazooka de dessinateurs se forme aux Beaux-Arts dans l'atelier animation et communication. Et il y a un terme, donc je parlais du terme de désapprentissage, qui est un terme de Lawrence Going, un historien de l'art anglais, qui est intéressant pour comprendre comment, chez ces artistes punk femmes, on assiste au fruit d'un apprentissage particulier, comment finalement l'art punk est le fruit d'un apprentissage particulier. Lawrence Going avait travaillé sur Turner, vous me direz quel est le lien. Turner parlait de ces images qui ne représentent rien et qui représentent très très bien le rien. Et Lawrence Going étudiait précisément les rapports entre l'œuvre de Turner, la tradition classique en matière de représentation de la figure humaine. Going utilisait ce terme de désapprentissage. Il notait par exemple qu'au début de sa carrière, Turner avait fait preuve d'un talent accompli pour traiter les figures dans la plupart des styles usuels, et il en concluait que l'aspect informe que prenaient ces mêmes figures à la fin de la carrière de l'artiste nous montrait finalement une appétence particulière pour le désapprentissage, comme la capacité finalement à s'émanciper de cadres que les artistes maîtrisaient par précisément les années de formation. Donc la première piste de réflexion peut-être, hein, pour parler donc de ces deux artistes femmes, c'est le rôle de la formation, son importance dans le processus d'un désapprentissage volontaire de normes qui pourraient faire obstacle à l'accomplissement de leur œuvre. Pour ancrer ça un peu plus dans les sources, par exemple, Nina Childress dit « L'idée, ce n'était pas de reproduire les normes, mais de réinventer, de les réinventer dans un esprit de liberté. Tout est permis. » Et on voit bien comment cette liberté se gagne, paradoxalement, par une maîtrise de la formation. J'en viens à mon deuxième point, donc je vais assez vite, ce deuxième point qui est l'esthétique punk. L'esthétique punk, donc j'ai parlé cette idée d'une tentative que représenterait la peinture punk. Alors je vais mettre un exemple de peinture punk. Ici, une toile de Nina Childress. Alors cette tentative de traduction de l'expérience punk peut avoir plusieurs aspects. L'un de ses premiers aspects peut être la question de la représentation de l'expérience d'un point de vue social, en particulier peut-être la représentation de l'expérience de la drogue. Ce qui est intéressant, c'est que Bazooka dit quand il revient, donc je parle comme d'un seul groupe, mais sur ses premières années, au départ dominait un parti pris assez gauchisant, bouleversé par l'acide. Et précisément, cette traduction de l'expérience du punk par l'acide va se matérialiser, il me semble, chez Olivia Clavel et chez Nina Childress, par l'utilisation de quelque chose qui leur est très particulier, qui est la peinture fluorescente. Alors je cherche, voilà, ici nous avons un exemple, donc la pizza, le football et l'Italie, donc une toile à l'acrylique de 85, et précisément, donc... La peinture fluorescente devient un marquant, quelque chose de déterminant. On a parlé du rose. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est lister un petit peu tous ces éléments plastiques et formels qui contribueraient à la construction d'un vocabulaire punk. D'autre part, donc, il y a cette première interprétation du fluo que l'on trouve dans l'œuvre de l'une et dans l'œuvre de l'autre, donc une présence de la peinture fluo. Et cette présence-là aussi, puisqu'on la retrouve encore dans l'étoile d'aujourd'hui de Nina Childress, donc Nina Childress peint, elle est exposée dans les cracks, les fracs, etc., nous montre aussi peut-être l'importance, si vous voulez, dans l'invention des formes punk, des femmes. Donc ça c'est une des premières choses, puisqu'il y a cette continuité que l'on repère encore aujourd'hui. Alors je voudrais soulever un aspect qui me semble faire écho à pas mal de choses qu'on a vues, notamment avec Philippe Lyotard, sur la question de la féminisation de la masculinité et la masculinisation de la féminité. Et ici, donc, on a des œuvres de 83, donc de Nina Childress, qui forment un apax, donc sont des œuvres figuratives qui s'inscriraient peut-être dans un dialogue avec David Hockney, la caricature. En même temps, elle va abandonner cette recherche, si vous voulez, de l'iconographie du punk, de la plasticité du fait punk. Elle l'abandonnera pour une recherche synesthésique basée sur l'abstraction, sur la recherche du rythme, le rythme étant finalement cet espace où la peinture peut être infléchie vers la musique, puisque le rythme est un espace commun finalement à la musique et à la peinture. C'est Jean-Yves Bosseur qui le dit. Alors ce qu'on voit ici, c'est que dans ces représentations réalistes de l'environnement de l'artiste, on assiste à quelque chose d'assez intéressant. C'est la mise en scène ou la mise en contexte du punk dans un environnement domestique qui précisément est considéré dans la culture visuelle comme étant lié aux femmes. Donc on se souvient par exemple de Marcel Duchamp qui va travailler sur le ready-made et au sujet duquel certains historiens comme Giovanna Zapperi disent que dans le ready-made s'exprime tout le rapport de Marcel Duchamp à la féminité. Et donc en quelque sorte le ready-made anticiperait par son lien à la culture de masse tout ce que l'artiste fera en créant l'alter ego Eros Célavie. Ici on a quelque chose d'assez similaire par rapport donc à cette perception, à cette utilisation de la culture de masse qui vient ici en quelque sorte transgresser les codes d'une masculinité punk telle qu'elle peut déjà peut-être se mettre en place suivant une doxa, hein, s'il y en a une, mais des années 80. Alors cet aspect-là, je parlais d'un apax, donc c'est ces toiles iconographiques hein, sur la vie des punks avec un aspect très pop, ne représente finalement qu'un aspect de la peinture de Nina Childress, l'autre aspect étant ces toiles abstraites qui cherchent une communauté avec la musique. Le dernier aspect, enfin l'avant-dernier aspect aussi donc, de cette œuvre, si on essayait de le périodiser, serait la trajectoire partagée de Nina Childress avec un autre groupe d'artistes après Lucrèce Milk, ce groupe étant les frères Ripoulin. Et ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est comment s'exprime la féminisation de la pratique artistique à travers l'utilisation de la broderie, de différents référents aux objets domestiques, puisqu'à d'autres moments, il est question de créer du design par exemple, des plaques de four, etc. Et précisément, selon les historiennes de l'art féministe, comme Lucie Lippard, il y a eu tout ce que l'on a appelé un art féministe, hein, qui consistait donc à revenir sur des activités liées au travail manuel qui inscrivaient précisément le travail des femmes dans quelque chose d'opposé au travail des hommes, donc l'art comme différenciation du genre. Et donc les frères Ripoulin sont composés de Klosky, de Pierre Huyghe pour les plus connus, des artistes aujourd'hui connus, et de Nina Childress. Et bien ce groupe d'artistes là, ce collectif d'artistes et travaillé par la question de la féminisation des pratiques. Donc ça fait partie aussi des points à voir. Alors évidemment, on peut comparer cette façon dont l'esthétique punk questionne les genres avec ce que fait Linda Sterling à la même époque, avec l'utilisation de l'image et de l'iconographie des objets domestiques. Bon, je mets juste ça très rapidement. J'en viens à Olivia Clavel. Donc d'un côté, on a avec Nina Tildress peut-être la conception ou l'affirmation d'une pratique de la peinture comme espace de différenciation des pratiques avec l'utilisation de la broderie, le lien à la société de consommation, une certaine relecture aussi des formes et des contenus du pop art. Et d'autre part, on a une stratégie assez différente avec Olivia Clavel. Donc à partir du moment où Bazooka est sabotée, elle commence à suivre une trajectoire individuelle et elle crée un personnage, donc le personnage de Télé, qui est ici, et parallèlement, elle met en place ce personnage qui est Macho Girl. Donc toutes ces bandes dessinées sont lisibles, tout à fait accessibles, donc il y aura un travail à faire là-dessus, évidemment. Moi, je ne les ai pas lues, je le précise. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche comme ça la présence d'Olivia Clavel dans l'historiographie, on voit qu'elle est inscrite dans une historiographie queer. Donc hier, je trouvais des ouvrages qui expliquaient à quel point Olivia Clavel s'inscrivait donc, dans cet art de l'indéterminé alors pour plusieurs raisons, parce que d'une part donc elle se crée un alter ego, la deuxième raison tient aussi au récit en particulier qu'elle met en place dans les bandes dessinées qui vont courir au long cours dans les années 80, et scénario qui incarnerait ou qui aspirerait à des idéaux antinormatifs, et ce dès 1980. Donc il y a déjà cette recherche par la bande dessinée de la mise en place d'espaces qui repensent un petit peu les formes de domination, et on voit que cet appel de Philippe Lyotard à faire attention à l'historicité est important, mais dès 1980 peut-être que déjà Olivia Clavel travaillerait sur cette zone liminale d'une visualisation du queer dans la bande dessinée. Alors, il y aurait un dernier point peut-être à souligner ou à évoquer. Donc, c'est la pratique actuelle de Nina Tildress et un art qui, à première vue, ressemble plus à ce qui est montré en Allemagne, dans les grands musées, en particulier à Gerhard Richter. Donc, un art qui embrasse de façon très, très frontale les codes du modernisme. Alors, ce qui est intéressant, et je finirai là-dessus, donc là on voit, je fais une parenthèse, donc, qu'elle travaille aussi sur les apprêts de la représentation, et tout ce qui, ça c'est Nina Tildress dans les années 2000, hein, tout ce qui finalement permet aux stéréotypes de se reconduire, donc elle travaille là-dessus, mais d'une façon finalement relativement neutre, hein, donc ce neutre qui laisse la place à des discours contradictoires. Je voudrais finir sur les propos actuels de Nina Tildress, pour justement ouvrir la réflexion à la question du vieillissement du punk, à la question aussi de la périodisation et de ce qui se produit quand un artiste commence à travailler sur la fin du punk qui est présenté par Éric de Chassé, et on en parlait avec Estelle, comme la dernière avant-garde. Donc il y a quelque chose de finalement assez contradictoire. Donc travailler sur la fin d'une avant-garde, et précisément peut-être qu'on a quelques pistes de ce qui se produit pour une ancienne punk comme Nina Tildress, dans cette espèce de distanciation, de mélancolie, ces images fantomatiques, ces images désincarnées. Elle écrit, alors on peut en guise de conclusion donc partir de deux citations. La première est celle-ci: dans les images sources à partir desquelles je travaille, je cherche surtout une qualité de couleur liée au vieillissement de l'encre d'impression. Ces images sont tentées par des corps absents. Bon, résume l'artiste avant d'ajouter, en s'excusant presque, il y a une forme de nostalgie dans ma peinture. Alors, on ne doit pas surinterpréter, mais si on, par un effet de montage, on met en relation cette réflexion sur le vieillissement et sur la peinture comme lieu de réflexion sur le vieillissement et l'absence du corps, on voit simultanément qu'en 2010, dans son discours, l'artiste inscrivait sa pratique de la peinture comme une approche biographique, autobiographique. Elle explique que le style en peinture rejoint pour elle l'énigme biographique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec Nina Tildress, peinture et autobiographie ne peuvent pas être tenues comme deux éléments disjoints. Donc forcément, on peut se demander si ce vieillissement dont elle parle n'est pas son propre vieillissement. Et je m'arrête là. Merci.